également dans l'actualité les suites de ce drame à Viry-Châtillon, les obsèques de Chemseddine, 15 ans, mort après avoir été passé à tabac non loin de son collège, auront bien lieu demain. Une marche blanche aura lieu vendredi. Beaucoup d'émotion, évidemment, sur place, des habitants, des camarades qui viennent déposer des fleurs. On va écouter quelques témoignages recueillis aujourd'hui.
Je suis choquée parce que c'est une histoire d'amour, une histoire bête. C'est une violence gratuite. On ne peut pas admettre qu'un enfant puisse mourir à 15 ans.
De la bagarre, de notre temps, il y en a toujours eu. Mais il n'y avait pas autant de violence que maintenant. Maintenant, on sait plus s'arrêter. Les jeunes ne savent plus s'arrêter. Ils s'acharnent, ils sont en groupe.
Je trouve que c'est n'importe quoi.
Déjà, moi, jamais.
Parce que même si, en fait, peu importe ce qu'il a fait, il ne méritait pas ça. En fait, il n'y a pas de raison justifiable pour tuer quelqu'un, je trouve.
Voilà, pour ces témoignages recueillis, on accueille sur ce plateau Francis Spinner, pardonnez-moi.
Vous allez y arriver.
Vous êtes avocat de Youri, oui. Violemment agressé, on s'en souvient, à Paris en 2021. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Christophe Pouvy également, secrétaire national du syndicat de police Unité. Merci à vous également. L'enquête progresse. On parle de 4 personnes désormais qui ont été mises en examen. 2 des mises en cause, un majeur de 20 ans et un mineur ont été écroués, tandis que 2 autres mineurs sont incarcérés provisoirement avant un débat contradictoire mercredi. C'est quoi déjà un débat contradictoire ?
C'est lorsque vous êtes présenté devant le juge que vous demandez un délai pour préparer votre défense, et donc dans un délai de 48 heures, vous passez à nouveau devant le juge des libertés et de la détention.
On parle là donc de mineurs principalement. Il y a un majeur de 20 ans, 3 autres mineurs. 3 sont quand même connus des services de police. Mais ce qui frappe dans ce qui s'est passé là, c'est la jeunesse des victimes et la jeunesse des agresseurs.
Écoutez, moi, outre l'affaire Youri, j'ai eu malheureusement l'occasion d'être l'avocat de nombreuses familles confrontées à ça. Ce qui est effrayant, c'est qu'on voit beaucoup de gamins de 13-14 ans qui sont d'une extrême violence. Et avec une justice qui n'est pas adaptée à répondre à ce type de comportement. Et donc, cette violence des 13-14 ans, elle est effrayante parce qu'on prend des marteaux, on prend des couteaux.
En l'occurrence, ça, c'est à main nue.
On prend des barres de fer, on y va à main nue. C'est, dans l'affaire de Youri, on a la caméra de surveillance, on voit le malheureux gamin qui est recroquevillé, et le type qui vient shooter comme s'il était au point de pénalty dans la tête le ballon. Donc c'est aussi pas seulement les armes, c'est vraiment des scènes d'une violence extrême dont d'ailleurs on s'étonne que les gamins ne se rendent pas compte des conséquences qu'elles peuvent avoir.
Rappelez-nous en quelques mots l'affaire Youri, ce qui s'était passé concrètement.
Ce qui se passe au départ, c'est qu'il y a une rivalité entre deux bandes, qu'il y a sur les réseaux sociaux la photo d'un des gamins qui est un peu amoché, que l'autre bande veut se venger, que grâce aux réseaux sociaux, on se regroupe très rapidement. En 2 heures, on sait qu'on a rendez-vous à tel endroit, on s'organise, on y va. Et ensuite, il y a un affrontement sur la dalle. Le malheureux Youri se retrouve tout seul. Et à ce moment-là, c'est un déchaînement de violence et un acharnement. Alors qu'il a terre, on continue à le frapper. Et heureusement, il y a quand même quelques passants. Et finalement, les gens s'en vont. Et miracle de la chirurgie et du corps humain, il s'en sort, mais il serait mort, ça aurait été la même chose.
Ce qui est intéressant là, c'est la défense. Peut-être qu'elle était attendue, cette défense, la défense des mises en cause. L'avocat d'un des 4 jeunes incarcérés dit « c'est pas un assassinat, mais ce sont des coups mortels sans intention de la donner ». Ça vous fait sourire ?
Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on a jugé les agresseurs de Youri, il y en a qui sont passés devant le tribunal pour enfants. Et puis un an plus tard, ils sont passés devant la cour d'assises des mineurs, les autres. Il y en a un qui vient. On lui dit « Monsieur, vous avez été condamné pour quoi ?» Alors qu'il a été condamné pour complicité de meurtre. Et il dit « Ah mais moi j'ai été condamné pour non-assistance à personne en danger. » Et ils plaidaient tous les coups mortels et ils ont tous été condamnés pour complicité de tentative d'homicide volontaire.
Et surtout quand on attaque quelqu'un à main nue, il faut s'acharner, non, pour le tuer.
Oui, il faut s'acharner. Alors moi dans cette histoire, ce qui est choquant en fait, si vous voulez, c'est aussi le motif.
Le motif, c'est un crime, soi-disant, d'honneur. Alors, je suis désolé, pour moi, c'est plutôt un crime de déshonneur, parce que déjà, quand on se met à quatre sur un individu, je sais pas où est l'honneur. Quand on est une famille de délinquants, on a déjà sali un petit peu le nom de la famille, et c'est pas vraiment l'honneur non plus d'être délinquant.
On rappelle justement ce que disent les mises en cause, je vous redonne la parole derrière. Ils racontent que les deux frères, deux grands frères, auraient appris plusieurs jours auparavant que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité, dont ce jeune garçon, Sam Chedid, 15 ans, donc tué.
Et donc le motif, c'est qu'on tue quelqu'un, soi-disant, pour un crime d'honneur. Moi, je sais pas, on est en France, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Iran, on n'est pas au Pakistan. Et à un moment donné, il va falloir aussi remettre un peu d'éducation là où elle doit être. C'est pas la République de s'adapter, c'est aux personnes qui doivent respecter les lois de la République. C'est pas à 20 ans, c'est pas à 15 ans qu'on se fait justice parce que justement notre sœur est en train d'échanger des SMS avec une autre personne de 15 ans. C'est des gamins, 15 ans. Mmh. Oui, forcément, ils parlent de la vie, ils parlent de sexe, ils parlent de la sexualité, ils découvrent des choses. Et donc, il y a des adolescents qui disent d'un seul coup, je vais laver l'honneur de ma famille parce que ma sœur n'a pas le droit de dire ça ou de fréquenter d'autres personnes. Ben, je suis désolé, mais demain matin, la maman de Sam Chedid, elle va enterrer son fils et c'est une femme qui est très bien insérée. Parce que j'ai entendu aussi d'autres choses, hein, en disant que peut-être qu'il fallait lui expliquer des choses. Non, c'est une fonctionnaire, elle travaille, elle est française, les trois enfants sont bien éduqués, et justement, ils étaient éduqués dans cet esprit de respecter les lois de la République, puisque la liberté, c'est aussi ça, c'est d'échanger avec une fille de 15 ans.
Cette notion de crime d'honneur invoquée par l'un des accusés, elle n'existe pas dans le droit français.
Ah bah non. Heureusement qu'elle n'existe pas dans le droit français. Vous voyez, moi j'étais l'avocat de la famille de la petite Sohan Benziane, brûlée vive dans un local à poubelle parce qu'elle refusait les avances de quelqu'un. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une partie de jeunes gens en France qui ne comprennent pas qu'en France, les femmes ont le droit à la liberté, et qu'elles ne peuvent pas être fliquées par les grands frères qui doivent leur imposer, et la tenue vestimentaire, et les relations qu'elles peuvent avoir avec les hommes.
Et ce sont des gens qui ne partagent pas notre civilisation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que dans notre civilisation, dans la France républicaine, on ne dit pas, les grands frères ne disent pas à leur petite sœur ce qu'elle doit faire. Et ne vont pas tuer d'autres parce qu'il y a eu des discussions. C'est comme ça. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens qui... Je termine mon propos. Il y a des gens qui sont en dehors de cette civilisation. Et ils sont hors la loi. Je suis désolé. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Une fois que vous avez dit ça, nous n'avons pas dit grand-chose.
Cet après-midi, j'entendais sur ce même plateau une représentante du Parti Socialiste qui niait ce fait culturel.
Si c'est tout à fait... Je partage tout à fait ce que vous venez de dire, mais limiter ces déviances à une seule culture importée dans notre pays, c'est trop réducteur. La violence, elle se retrouve partout, parce que il y a au moment où des jeunes gens se maturent, des jeunes gens adolescents, jeunes adultes se maturent, ils sont soumis à des pressions qui n'existaient pas auparavant, les réseaux sociaux, les phénomènes de meute, l'idéalisation, on parle souvent de démission des parents, mais il n'y a pas d'émission, il y a même parfois une surmission des parents, il suffit de voir ce qui se passe au bord des terrains d'entraînement de football, où les coachs sont molestés parce qu'on ne supporte pas que l'enfant soit critiqué, on va taper les professeurs qui n'ont pas donné une bonne note, et vraiment, si c'est vrai ce que vous venez de dire, mais c'est pas suffisant comme explication. La violence, elle est partout et elle est le conglomérat d'un certain nombre de phénomènes qui nous inquiètent, qui nous rendent extrêmement anxieuses.
Mais une partie des affaires trouve leurs racines. Le procureur de Paris est obligé de reconnaître que devant les poursuites contre les mineurs, les deux tiers sont issus de gens qui sont issus de l'immigration et qui donc ont des rapports avec les femmes, ont des rapports avec la culture tout à fait différentes. C'est une des causes, ce n'est pas la seule. Voilà. Je pense que le problème est beaucoup plus global. C'est le problème de l'éducation, c'est le problème du non-respect de l'autorité. Le professeur n'a plus d'autorité. Vous avez raison. Combien de fois les parents sont les premiers à prendre parti des enfants contre les professeurs? C'est cette culture anti-policière. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, l'autorité dans notre pays est mise à mal et qu'on ne peut pas construire une société où il n'y a pas d'autorité.
Et c'est aussi les réseaux sociaux. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, elle se se dit favorable à l'expérimentation de l'interdiction du téléphone portable dans l'ensemble des établissements pour limiter l'accès aux réseaux sociaux.
Non, c'est pas la bonne solution.
Richard
en fait.
Verli.
Non, je dis, d'un autre côté, on est quelquefois contradictoire parce qu'on parle là maintenant des grands frères sous un jour extrêmement négatif et problématique, mais j'ai vu d'autres documentaires ou d'autres moments où on vante le rôle des grands frères qui encadrent les plus jeunes, qui les empêchent de passer dans la délinquance.
Mais c'était une autre génération.
Oui. Ah, alors voilà.
C'est une autre génération, je pense.
Les grands frères ont changé.
Les grands frères n'ont plus l'autorité. Quand je vous dis qu'il y a des gamins de 13-14 ans...
L'autorité sur les garçons, la bonne autorité 13-14 sur les garçons, sur les filles.
Qui sont leaders dans le phénomène de bande. C'est-à-dire que quand, je suis pas sûr que celui qui avait 20 ans ait été le plus violent. Et donc, vous voyez dans les affaires que les très jeunes mineurs sont souvent les plus violents et un rôle leader.
Donc, au fond, c'est la disparition des grands frères et c'est les petits frères qui, en quelque sorte, assument l'autorité.
C'est les enfants qui ont pris le pouvoir, surtout.
Voilà.
C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, les enfants n'ont plus de limites. On n'ose pas punir, parce que même des fois, quand les parents punissent, ils culpabilisent de donner des punitions parce que c'est mal vu, parce que la société aujourd'hui blâme les gens qui punissent. On le voit bien, d'ailleurs, dans la justice, quand on punit, on nous dit bien que la prison, c'est l'exception. Il faut utiliser plein de choses avant. Ok, bon, je suis pas forcément d'accord sur cette analyse, mais c'est un choix politique. Après, encore une fois, on critique aussi souvent l'école. L'école, c'est un lieu d'instruction, pas d'éducation. Donc si vous instruisez les enfants, déjà, il faut qu'ils aient un esprit construit. Et que le soir, vous déconstruisez ce qu'a fait l'école et que vous donnez une autre éducation qui est contraire aux valeurs de la République, c'est compliqué. Après, effectivement, et quand je parle ça, je cible pas forcément des personnes d'immigration. On a des familles entières qui vivent en autarcie, en silo, avec leur propre code, leur façon de faire, clanique, et donc ils s'affranchissent complètement des lois de la société. Et ça, on le voit. Et les gamins aujourd'hui, ils prennent le pouvoir. Quand on voit dans les écoles aujourd'hui, on les rend tout de suite autonomes. C'est plus des enfants, c'est des petits adultes. Et donc, en fait, il faut peut-être aussi repenser un petit peu, avoir une réponse globale sur l'éducation, et pas que par silo. C'est pas qu'une réponse policière, qu'une réponse de la justice, de l'éducation nationale. Il faut voir la globalité, et quelle société on veut pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans.
C'est un tout, même si, je vous donne la parole dans un instant, mais vous le disiez, la justice n'est pas à la hauteur. Il faut des sanctions plus sévères, c'est quoi ?
C'est pas la notion de hauteur, c'est la notion que, par exemple, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut maintenir la majorité pénale à 18 ans ou à 16 ans ? C'est le premier sujet. Est-ce que nous avons les moyens nous nous donnons les moyens. Et écoutez, un certain nombre de vos amis politiques sont prêts à donner le droit de vote à 16 ans. Si on peut voter à 16 ans, on peut être considéré comme pénalement responsable à 16 ans.
Pas forcément.
Donc mais ça, c'est ce que vous souhaitez.
Le rapport.
Alors écoutez, si vous ne voyez pas
la part là-dessus, moi je ne comprends plus rien, Pablo.
Mais attendez, ça, vous seriez pour abaisser la majorité pénale à 16 ans?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Et ça serait dissuasif?
Ça serait pas dissuasif.
Là, parce
il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que nous avons un tel problème que ça concerne le secteur de l'éducation, ça concerne les réseaux sociaux. Moi, je suis, par exemple, pour la mesure d'interdiction d'être sur les réseaux sociaux. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire Monsieur X ne peut plus être sur un réseau social.
Mais ça, vous savez que c'est
impossible. Mais si, c'est très possible.
On peut toujours réapparaître sous un autre compte.
Mais vous savez, si on réapparaît sur un autre compte, celui qui vous a aidé à apparaître sur l'autre compte sera poursuivi pour complicité de violation de l'interdiction. On ne peut pas dire à chaque fois, on ne peut pas parce que c'est compliqué. Mais en même temps, on manque d'éducateurs. On manque effectivement de centres d'encadrement parce que la prison n'est pas la panacée. La prison, elle a deux buts. Le premier, c'est de faire en sorte que les gens qui sont insupportables arrêtent d'emmerder le monde. Et au moins, quand ils sont en prison, ils ne sont pas négatifs. Ça, c'est l'aspect protection.
Insupportable, vous êtes dangereux, plutôt.
Ouais. Et ensuite, il y a la deuxième chose, qui est la réinsertion. Parce que si on peut éviter qu'ils reviennent, ça serait pas mal. Sur le plan de la réinsertion avec les mineurs, c'est compliqué. Parce que ça demande beaucoup de moyens, et ça demande surtout le retour de l'autorité. Parce que si vous mettez quelqu'un dans un centre dit fermé, et qui part au bout de 3 semaines et que vous le retrouvez plus, ça ne sert à rien. C'est un grand défi que nous avons à relever. Mais, encore une fois, il y a des causes multiples. L'éducation, les réseaux sociaux, les travailleurs sociaux, et la répression.
Oui, moi, je voudrais revenir sur plusieurs propos qui ont été tenus depuis tout à l'heure, que je considère comme profondément anti-républicains. Quand vous avez parlé du rapport à la civilisation ou quand vous avez mentionné les origines supposées ou réelles d'ailleurs.
Réelles, c'est le procureur de Paris.
Et de ces délinquants qui soi-disant étaient issus de l'immigration. Moi, je suis désolé, mais je suis républicain. Ce sont des Français et des Françaises, des petits Français et des petites Françaises. Et que je les considère en tant que cela
et uniquement en tant
alors,
que
excusez-moi,
cela.
Excusez-moi,
il faut protéger les petites Françaises. Ben justement, il faut protéger les petites Françaises de cette culture mortifère. Justement, protégeons ces petites Françaises.
Je me suis mal expliqué. Deux tiers sont étrangers. Ce n'est pas des Français, ce sont des mineurs étrangers, les fameux mineurs isolés, où nous avons des difficultés, par exemple avec les textes osseux, etc., avec tout ce qui s'est passé, et je sais bien, mais vous savez...
Attendez, je finis le point sur la République, oui. Parce que je pense que
mais vous n'êtes pas le détenteur du monopole de l'esprit républicain.
Vous voulez, on peut le partager. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il soit un peu plus partagé.
Moi aussi.
Donc, vous savez, la République, elle a plusieurs façons en fait de réagir lorsqu'il y a un problème. Et là, moi, je suis d'accord avec vous. Ce qui s'est passé est inadmissible, et il faut trouver les voies et moyens pour essayer que ça arrive ou que ça arrive le moins possible. Ok. Très bien. La proposition que vous faites du côté de chez les LR, on l'entend beaucoup sur les plateaux, c'est la sanction. On va augmenter la réponse pénale.
Non, c'est pas ce qu'a dit M. Skinner.
Non, pas forcément. Non, mais si, il a beaucoup parlé de la sanction. Ah ouais. Mais attendez, si, je suis désolé, c'est la proposition. Moi, je pense, elle n'est pas unique. C'est pas la proposition.
Ah, quand même, d'accord.
Exactement. Non, mais je rends à César ce qui appartient à César. Vous n'avez pas que dit ça. Moi, je pense que la plus grande force de la République, c'est sa capacité, justement, à pouvoir inclure tout le monde en son sein. Pour ça, effectivement, il y a la question de
faisant respecter les règles, les lois.
Oui, mais vous savez, la loi devient universelle à partir du moment où elle n'est pas contrainte par notamment violemment. La loi, elle devient universelle à partir du moment où tout le monde.
Mais est-ce que c'est pas un feuilleton l'accepte piste,
pas. Qu'est-ce
mais qu'on fait concrètement face à cette violence?
C'est comme ça, notre République. Si pour appliquer toutes les lois, il faut un flic dans chaque maison, c'est pas possible.
Mais non, alors
c'est
attendez.
Pas comme ça que ça marche. La République, elle est forte parce qu'elle brille. Parce que, genre, en fait, les gens. Mais si, bien sûr que si. Parce que les gens acceptent.
La République, elle est forte quand elle garantit à chacun la tranquillité et la sécurité. Mais je vais prendre un exemple qui montre que par moment, je crois que vous êtes complètement décalé. J'étais l'avocat de la famille du père Hamel. Et ben l'un des assassins qui était mineur, il était sous contrôle judiciaire. Il avait son bracelet électronique. Et comme c'est un gentil garçon, il est sorti aux heures où il avait le droit de sortir avec son bracelet électronique pour tuer le père Hamel. Alors, moi, je veux bien qu'on vienne dire que la répression, c'est affreux. Mais à un moment donné, la répression, c'est pour protéger les gens.
Non, j'ai pas dit que c'était affreux. Je pense que c'est nécessaire dans une certaine mesure. Mais je pense que, vous savez, il y a beaucoup d'exemples à travers l'histoire et dans le monde, y compris actuellement, où en fait, la répression est l'unique réponse en fait, qu'apportent certains régimes à des problèmes sociaux.
C'est pas le cas de la France.
Il y a des problèmes qui sont.
Ce n'est pas.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on va vers là. Et je suis désolé, mais si vous voulez, on peut aller comme au Venezuela ou en RDA, où à chaque fois qu'il y avait un problème ou que.
Le Venezuela,
c'est plutôt vos amis.
Ce ne sont certainement pas mes amis, mais c'est vous qui avez l'air de copier la solution. Hugo Chavez, quand il avait un problème, il disait allez, vas-y, on envoie la police et puis on fait des
radios.
Vous êtes dans la caricature.
Mais je remarque en fait la direction que prend une partie aujourd'hui de nos responsables politiques lorsqu'il s'agit de répondre à des problèmes sociaux et sociétaux qui sont, je vous l'accorde, et là, je pense qu'on est tous.
Juste
très
pour en revenir à l'enquête, la petite sœur en question, âgée de 15 ans, elle n'était pas présente au moment des faits, mais elle a quand même été mise en examen du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime. La question, c'est que savait-elle? Et visiblement, elle savait et elle n'aurait pas empêché son frère.
Oui, c'est une question que je voulais vous poser parce que j'avais noté qu'elle a été interpellée. Je ne sais pas si elle
mise
est
en examen.
Mise en examen. Donc ça veut quand même dire quelque chose, a priori, sur le rôle qu'elle a pu jouer dans ces affaires. Et ma deuxième question, c'était, on a beaucoup parlé au moment des émeutes de juillet l'année dernière du rôle des caïds dont on disait quasiment qu'ils assurent la sécurité et que c'est eux qui avaient décidé de la fin des émeutes. À vous comprendre et à vous entendre, finalement, les caïds ne gèrent pas non plus grand-chose. Ils ne sont pas à même maîtriser la violence dans les quartiers.
Première question, cette jeune fille, comme tout le monde, est présumée innocente.
Bien sûr.
Deuxièmement, j'ai un principe, c'est que je ne porte jamais de jugement sur les procédures dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants.
Mais là, vous n'êtes pas étonné par cette mise en examen. Elle vous paraît logique.
Je ne connais pas les éléments qui ont amené le juge à le faire, donc je me garderai bien de me prononcer là-dessus. Troisièmement, les caïds. Les caïds, il y a deux sortes. Vous confondez les caïds et les grands frères. Oui. Les caïds, c'est le trafic de stup.
Oui, c'est ça. C'est des
Au Sénat, nous avons lancé d'ailleurs une commission d'enquête sur le narcotrafic, et dont on s'aperçoit, avec ce qui est encore de se passer à Avallon, qu'elle est fort utile et que le mal est encore plus profond, y compris dans des petites communes. Les caïds de la drogue, c'est des businessmen. Et donc l'émeute, c'est pas bon pour le commerce. Donc eux, ils ont encore de l'influence, et puis ils font vivre un certain nombre de gens. À un moment donné, quand il y a eu des opérations en Seine-Saint-Denis, on s'est aperçu qu'il y avait une baisse des loyers, parce que les gens ne recevaient plus leur paiement. Donc les caïds et les grands frères, c'est deux situations différentes.
Une toute dernière question, le mot de la fin. Ils risquent quoi, ces mineurs accusés d'avoir porté des coups mortels quand on est mineur?
Alors, si on retient les coups mortels, la peine encourue est de 15 ans, avec, il peut y avoir des circonstances aggravantes si c'est en réunion avec armes, etc. Mais il y aura, sauf pour celui qui a de 20 ans, l'excuse de minorité, qui diminue la peine par deux, que les juges peuvent toujours écarter, mais qu'en général, ils n'écartent pas. Je peux compter sur un doigt de la main quand c'est arrivé. Et donc, ils risquent une peine qui sera de 7 ans et demi de détention. Le cas
ils sortiront
échéant.
Au bout de 3 ans.
Et oui, il y a remise de peine.
Peut-être moins maintenant, 4 ans, oui.
3-4 ans, ils sortiront. Et c'est d'ailleurs cette exception, cette circonstance atténuante que souhaite supprimer François-Xavier Bellamy, notamment.
L'excuse de minorité, la supprimer est une. Et je le dis, même si ce sont mes amis qui le pensent, c'est une erreur. Parce que d'abord, elle peut être supprimée, elle peut être écartée par le juge. Donc à partir du moment. Encore une fois. Quand on juge quelqu'un, on juge une personne avec son histoire, et personne ne ressemble à tout le monde. Donc, si les juges estiment, moi je l'ai vu dans une affaire, j'étais partie civile, c'est le seul gamin qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en France. Bon. Et les juges ont écarté l'excuse de minorité. Donc ils peuvent le faire. Donc la supprimer, franchement...
Vous n'êtes pas pour?
Non. Non.
Malgré ce que disent vos camarades des Républicains.
Oui, mais ils ont peut-être moins de pratique que moi, vous savez.
Allez, merci beaucoup, Maître Spinner. Merci beaucoup, Monsieur Couvi, d'être venu sur notre plateau.